I'd really love to ask. Is there a place for the hopeless sinners who has hurt all mankind? Just to save his own belief.
One love.
What about a one heart?
One love.
What about a one heart?
Bonjour Mélanie.
Bonjour Lily, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'amour.
L'amour.
L'amour. Alors, l'amour déjà vu par les Occidentaux, c'est-à-dire la neurobiologie de l'amour. Alors, Lily, l'amour nous est offert dès notre naissance, on est d'accord ?
Ouais.
Nos parents nous aiment d'un amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'en tant que parents, on exige rien en retour. C'est l'amour inconditionnel. Alors, ça s'explique par notamment une hormone qui est déclenchée lors de l'accouchement. C'est une neurohormone qu'on appelle l'ocytocine et qui permet de contracter les muscles lisses de l'utérus pour que l'accouchement se passe dans de bonnes conditions. Et on sécrète aussi l'ocytocine lors de l'allaitement. Alors, on appelle cette hormone l'hormone de l'amour, de l'attachement. Alors, il faut savoir qu'elle n'est pas spécifique à l'homme. Hein. On la retrouve chez les rats, chez d'autres espèces. La question, du coup, est-ce que les animaux sont capables de nous aimer comme on les aime ? Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce qu'eux aussi, ils ont des papillons dans le ventre ? Le cœur qui bat la chamade ?
Je pense que oui. Je pense que les animaux peuvent aimer.
Ouais. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Mais on n'est pas tous d'accord. Alors, de plus, des études récentes nous ont apporté une information essentielle. On savait que l'ocytocine était produite par le cerveau. Et maintenant, on sait aussi que le cœur peut recevoir de l'ocytocine, mais aussi en produire. Donc, ça remet un peu en question notre façon de voir les choses en Occident, c'est-à-dire que chaque système est bien distinct. Là, ça voudrait dire que le système cardiovasculaire est relié au système endocrinien. Alors, peut-être que l'amour n'est pas qu'une question de chimie, même si je vais vous détailler là tout de suite l'évolution hormonale. Donc, on commence déjà par sécréter de l'endorphine, une endorphine spécifique qui s'appelle la phényléthylamine, PEA. Donc c'est celle qu'on va fabriquer quand nous sommes attirés physiquement. Elle provoque l'euphorie, la bonne humeur, l'optimisme, l'hyperactivité. Et c'est elle aussi qui réduit un petit peu notre appétit, notre besoin de sommeil. D'où l'expression « vivre d'amour et d'eau fraîche ». Ensuite, on va sécréter une deuxième hormone, la vasopressine. Donc c'est une hormone qui augmente la pression artérielle, qui provoque notamment l'érection chez l'homme. C'est l'attraction pour le partenaire, le comportement sexuel, avant que les sentiments, quoi. Et puis lors de l'orgasme, on va sécréter d'autres hormones qui sont aussi euphorisants. Donc la dopamine qui provoque une sensation d'énergie et de puissance. L'ocytocine, comme on vient de voir aussi, donc l'hormone de l'amour, l'hormone de la tendresse, qui nous met dans une sensation de bien-être avec une baisse du taux de cortisol, donc moins de stress. La luliberine aussi, qui participe au désir. Et oui, aussi de la testostérone. Même nous, en tant que femmes, on va sécréter de la testostérone pendant l'acte, ce qui aura pour effet d'augmenter la circulation sanguine dans les organes sexuels.
Ah oui ?
Oui, il n'y a pas que les hommes, tout à fait. Après, scientifiquement, on sait que faire l'amour, c'est bon pour la santé. En effet... ça renforce notre système cardiovasculaire, notre système immunitaire aussi, car mélange des fluides, donc notre système immunitaire sera stimulé. Ça diminue, donc, comme on l'a vu, le stress. Ça active aussi tout le nerf vague qui relie le cerveau qui passe par le cœur. Et on a vu aussi, grâce à l'ocytocine, qu'on avait une meilleure cicatrisation. Donc en fait, ça a vraiment des effets bénéfiques, même donc, de faire l'amour. Je dis de faire l'amour, mais c'est aussi d'aimer. Hein.
Faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime, bien sûr.
C'est quand même mieux. Donc voilà, voilà pour la vision très scientifique, très voilà, très cartésienne de ce qu'est l'amour, mais c'était un peu ennuyeux. Hein.
Ouais, en bah, très scientifique, mais très intéressante. Moi, j'apprends chaque jour de nouvelles choses avec toi, Mélanie.
Donc là, je vais élargir notre notre vision de voir l'amour en médecine ayurvédique. Donc c'est une, je le rappelle, c'est une médecine traditionnelle datant de 3000 ans qui vient d'Inde. C'est une médecine qui va être préventive, hein, et holistique, c'est-à-dire qu'elle va, qu'elle ne dissocie pas le corps et l'esprit, hein, tout, tout est lié. Notre état de santé est maintenu grâce à des fluides énergétiques, donc qu'on appelle aussi l'énergie vitale. Et cette énergie vitale qu'on possède en nous, elle a trois principaux ingrédients, donc l'énergie nutritive, notre alimentation, l'oxygène et l'énergie sexuelle. Et ces énergies circulent dans tout le corps à travers des méridiens. Et en médecine ayurvédique, on compte 16 principaux canaux, dont le 16e qui relie le périnée au crâne, au-dessus du crâne, et qui sera composé de 7 centres, 7 roues d'énergie, 7 centres d'énergie qui sont les chakras. Donc moi, je vais juste m'attarder là-dessus parce que dans cet axe-là d'énergie, du crâne au périnée, il y a le chakra, le quatrième, qui est le chakra du cœur, qu'on appelle, enfin, qu'ils appellent en Inde Anahata, qui signifie invaincu. Donc ce chakra du cœur se situe sur le sternum, entre la poitrine. Donc il est lié bien sûr au cœur, au système circulatoire, au poumon, au thymus. Alors émotionnellement, il va concerner les polarités amour et tristesse. On peut lier bien sûr tout ce qui est problèmes cardiaques, circulatoires, pulmonaires. En médecine ayurvédique, on le lie souvent à des tristesses qui sont accumulées dans cette zone, qu'on n'a pas extériorisé et l'énergie stagne là. Alors c'est un chakra qui va permettre d'exprimer la joie de vivre. La couleur qui lui a attribué est le vert. Et lorsque l'amour s'écoule inconditionnellement à travers lui, donc le but ultime de chacun, bien sûr, son rayonnement est rose. Voilà. Et c'est vraiment notre source d'amour. Hein. Et prendre conscience de ce chakra, c'est aussi avoir une estime de soi. Mm-hmm. Hein. Avant d'aimer les autres, il faut d'abord apprendre à s'aimer soi.
Donc, ça veut dire prendre conscience qu'on a ce chakra du cœur.
Il y a une énergie qui circule,
ça veut dire prendre conscience qu'on...
De son estime, en fait. De son importance, ouais. Ouais. Voilà.
D'accord.
Alors, toujours donc en Ayurveda, toute action que l'on va entreprendre sans amour ne sera pas durable. Alors que si on entreprend avec ce chakra, avec cette énergie-là, voilà, cette action sera durable. Mettre du cœur à l'ouvrage, on ouais. dit un peu comme ça. Donc du coup, c'est un peu ça qu'on retrouve là-dedans. Alors vraiment, l'amour, c'est l'élément indispensable à la fixation de cette énergie vitale.
D'accord.
En fait, rien n'est durable, rien n'est fixé s'il n'y a pas l'amour autour. C'est vraiment un catalyseur, un unificateur. Voilà. Alors c'est sûr qu'on peut avoir un peu du mal à percevoir ce à quoi peut ressembler l'amour dans nos cellules. Alors on peut se pencher sur les travaux de Masaru Emoto, Emoto, E-M-O-T-O, ça vaut le coup d'aller voir. Mm-hmm. C'est un docteur en médecine alternative qui a réalisé à la base des études sur l'eau. Donc il a prélevé un peu partout dans le monde des eaux usées et pures, et les a congelés à moins 25 degrés. Donc les gouttes se transforment alors en cristaux, puis il les a photographiés sous un microscope. Donc il va découvrir que plus l'eau est propre et saine, plus les cristaux sont nets et harmonieux. Plus l'eau est sale et contaminée, plus les cristaux vont être asymétriques et sans réelle forme. Alors il va continuer ses recherches, il va envoyer des vibrations à l'eau, donc des vibrations positives avec de la musique classique, des vibrations négatives, avec du métal, colère, de la haine, on sent bien tout ça. Il va aussi faire une expérience en posant une intention, donc beau, laid, amour, haine, voilà, en l'écrivant sur un mot, et en le collant sur la bouteille d'eau. Alors il va voir, il va constater que tantôt les cristaux sont symétriques et harmonieux, et dans les autres cas, ils sont asymétriques et incomplets. Donc du coup, Mosotto amène par ses recherches la preuve que l'eau retient bien une information. Et de ce fait, elle a une mémoire. Elle a une mémoire et du coup, il faut rappeler que nous sommes quand même composés de 70% d'eau. D'ailleurs, comme la Terre, hein, sur la Terre, il y a 70% d'eau. Et que peut-être qu'il est important de propager, de s'auto-propager de l'amour, hein, pour que nos cellules soient harmonieuses. Et même si scientifiquement, on ne peut pas expliquer ou quantifier ou poser une équation sur ce qu'est l'amour, sur ce que sont ces ondes-là qu'on peut envoyer, qu'on peut recevoir, et ben ces énergies-là, quand même, elles existent. Elles existent, elles émanent de nous. Alors, faisons le choix de n'être qu'amour ou d'être amour, en tout cas. Et je vais finir sur Platon. Platon qui a dit quelque chose qui m'a touchée, qui peut faire méditer, qui va peut-être vous faire méditer aussi. C'est qu'il est plus important d'aimer que d'être aimé. Voilà.
Il est plus important d'aimer que d'être aimé.
Voilà,
ouais, comme
Lily, tu vas méditer.
Mélanie. Ouais, je vais méditer. Moi, cette chronique m'a beaucoup passionnée. Merci pour ce beau moment.
On se quitte sur Bob.
On se quitte sur Bob.
Qui respire l'amour.
C'est ça.
Father,